Bonsoir à tous. Je suis la directrice générale du Centre Pompidou, Agnès Sahal, et au nom de son président, Alain Seban, je vous souhaite d'abord la bienvenue parmi nous ce soir. Et je vous dis également notre plaisir, notre fierté à accueillir au Centre Pompidou deux grands écrivains contemporains, Amos Oz, David Grossman, qui nous font l'infinie gentillesse de venir participer à cette soirée à laquelle vous avez, je crois, eu l'excellente idée de venir aussi. Pourquoi sommes-nous si fiers et si honorés, si heureux de bénéficier de leur présence ce soir? D'une part, parce que ce sont deux hommes de littérature, nourris, pétris de l'amour des lettres, de l'amour des livres, de l'amour également du dialogue et de l'échange. Ce sont deux grands écrivains dont nous apprécions beaucoup les œuvres et dont je crois Clémence Boulouk, avec sa finesse et sa pertinence habituelle, va tirer le meilleur au cours d'une soirée qui, j'espère, sera riche, dense et très intéressante. Mais nous les avons également conviés ce soir, au-delà de la présence de la littérature au Centre Pompidou, présence constante, au Centre Pompidou et à la Bibliothèque publique d'information, bien sûr. Au-delà, nous avons considéré également qu'ils avaient toute leur place dans une institution qui est ouverte sur le monde, ouverte également au dialogue, à l'échange entre les civilisations, entre les cultures, entre les hommes. Et il nous a semblé que ces deux grands écrivains contemporains incarnaient magnifiquement une certaine idée de l'autre, une certaine idée de l'échange, une certaine idée également de ce que la civilisation peut et doit apporter à l'échange entre les gens. Et dans le contexte tourmenté que connaît le Proche-Orient, il nous a semblé que David Grossman, Amos Oz, chacun à sa manière, apportait une pierre à l'édifice d'une construction difficile, d'une construction de paix, et qu'ils incarnaient magnifiquement cette volonté, cette aspiration en tout cas, à parvenir à un meilleur équilibre. Nous les remercions d'être là ce soir, l'un et l'autre, et nous leur laissons évidemment la parole. Et nous vous souhaitons, je vous souhaite une excellente soirée.
Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci à David d'être là et Michel Zlotowski qui sera sa voix pour cette soirée. Forcément, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là ce soir, donc j'espère pouvoir vous donner un peu cette voix qui est si importante pour nous et pour le monde. Mais je voudrais commencer par une question d'importance, David. Quel est votre lien exactement avec les grenouilles? Parce que, en fait, dans le livre de la grammaire intérieure, Aaron Kleinfeld a des idées lumineuses, comme un élevage de têtards, parce qu'il veut commencer à vendre sa production au Bonaparte, le premier restaurant français qui a ouvert à Jérusalem. Et la grenouille aussi saute d'un livre à l'autre, parce que dans l'enfant zigzag, on lit « Papa a émis le coassement d'une grenouille qui aurait creusé un tunnel sous la Manche pour se retrouver dans une casserole française ». Donc l'écriture, c'est vraiment pas défense et illustration de la grenouille, surtout au pays de ceux qui sont censés la manger.
קלמונס, את קראת את הספר את זה הרבה יותר מאוחר אחריי. אני מוכרח לומר שעד שסיפרת את זה עכשיו,
אני לא זכרתי.
אני רק יודע שאהרון הוא כזה ילד שיש לו כל מיני רעיונות מאוד לא צפויים.
Je sais que Aaron est un enfant simplement qui a des idées totalement imprévues.
שהם בדרך כלל קשורים בניסיונות להחייאה.
Qui sont en fait destinés à des expériences prévues pour les arts culinaires ou la nourriture.
הוא ינסה למשל להחיות חיפושיות שהתהפכו על הגב ולא יכולות לחזור ללכת.
Par exemple aussi sur la question de la survie, il va essayer de renverser et de remettre à l'endroit des hannetons qui n'arrivent pas à se remettre sur leurs pattes.
הוא קורא מודעות אבל בעיתון והוא ינסה להחיות את האנשים שמוזכרים שם, ינסה לעשות לעצמו מין רפובליקה של האנשים שכבר מתו.
Il lit les annonces de décès, les nécrologies dans les journaux et il essaie de faire revivre, de faire une résurrection des gens dont il a lu les noms, de créer une sorte de république de tous ceux qui ont disparu.
ובכלל, כל דבר שהוא עושה הוא איזשהו ניסיון להתגבר על המגבלות של הגוף ולתת לנפש לדבר ולנפש להיות משוחררת.
Ces tentatives visent surtout à libérer le corps, en fait, à dépasser les limites qui sont celles du corps et donner plus de place à l'âme. Ce n'est que comme ça que je peux expliquer cette imbécilité des grenouilles.
Bon, c'est pas vraiment une imbécilité, surtout au pays de ceux qui sont censés la manger, mais donc. Vous naissez David Grossman dans une famille ashkénaze en 1954. Votre père a émigré de Galicie en 1936, des environs de Lemberg, des environs du pays de Joseph Roth. Mais c'est finalement Sholem Aleichem qui vous donne finalement un retour dans ce pays que vous n'avez jamais connu. Est-ce que la littérature pour vous a été aussi ce pont entre un passé inaccessible et un présent où le passé était tu?
בהחלט, בהחלט. אבא שלי נולד בעיירה ליד למברג, בעיירה שנקראת דינוב.
Mon père est né dans un village près de Lemberg qui s'appelle Dino.
תמיד כשאני אומר את זה אני מקווה שמישהו יקום ויגיד גם אני מדינוב.
Et j'espère toujours quand je dis ça que quelqu'un va se lever dans la salle et dire moi aussi je suis né à Dino.
ואבא שלי אף פעם לא דיבר איתי על מה שהיה בילדותו, על העיירה שלו.
Mon père ne m'a jamais raconté ce qui s'était passé dans son village, dans son enfance.
אני צריך להוסיף שהוא בא לארץ ב-1936, בא לישראל שהייתה אז פלסטינה, ארץ ישראל ב-36.
Qu'à l'époque où mon père est venu, il est venu en 36, un moment où ce pays s'appelait la Palestine.
והנה יום אחד כשהייתי בערך בן 8, הוא בא ונתן לי ספר קטן בכריכה אדומה בהוצאת דביר ואמר לי כך תקרא, ככה זה כמו שהיה לנו שם.
Et un jour, je devais avoir 8 ans, il est venu, il m'a donné un livre avec une couverture rouge, une reliure rouge, des éditions de Vire. Il m'a dit, tiens, prends ça, c'est comme un vieux vin.
והיה משהו מאוד בלתי רגיל, שאני זוכר אותו עד היום, בחיוך שלו, שפתאום היה רך כזה וקצת ילדי, לא ילדותי, ילדי.
Et puis, il y avait quelque chose de bizarre, parce que quand il est venu vers moi ce jour-là, il avait un sourire, non pas infantile, mais d'enfant, enfantin. Et c'était un livre écrit par Shalom Aleichem, c'était Motel, le fils de Pesi, le chantre. Et
Sham קראתי לראשונה את הסיפור של העיירה היהודית במזרח אירופה.
Et c'est là que la première fois j'ai lu l'histoire de ce qu'était un village juif en Europe orientale, en Europe de l'Est.
ובהתחלה כשקראתי לא הבנתי כמעט כלום.
Et au début, quand je lisais, je comprenais rien.
השפה הייתה מוזרה מאוד.
La langue était très étrange.
שפה ארכאית, כמעט תנכית.
Langue archaïque, presque biblique.
אני זוכר שגם העמודים, מספרי העמודים לא היו בספרות אלא באותיות, כמו קצת בכתבי הקודש.
Que les chiffres, en fait, la numérotation des pages n'était pas en chiffres, mais en lettres, comme dans les livres de prière, comme dans les livres saints.
והתחלתי לקרוא שמה על הרב ועל השדכן ועל הכומר ועל
פוגרום. J'ai lu des choses sur le rabbin, sur le marieur, sur le pope. sur les pogroms.
ואני משער שבשבילי בגיל ההוא, בגיל 8 או 9, זה היה כמו בשביל הילדים שלי לקרוא קצת science fiction. זה נראה מציאות חצי בדויה.
Pour moi, lire ça, c'était comme pour mes enfants aujourd'hui, comme les enfants d'aujourd'hui, de lire de la science-fiction, c'était de l'imaginaire total. Mais c'était pour moi aussi une clé pour, qui ouvrait l'enfance de mon père. Et c'est pour ça que j'ai lu, ce me semble, les écrits de Shalom Aleichem avec une telle soif. Et donc, en très très peu de temps,
j'ai
lu tout ce qu'il y avait d'écrits de Shalom Aleichem en hébreu. Il y avait des contes, des histoires, des légendes, des chroniques et des choses pour adultes que je ne pouvais pas comprendre à cet âge-là.
כי מה יכול ילד להבין על כל מאבקי הכוחות בתוך העיירה? ומה יכול ילד להבין על החרדה הקיומית הזאת של יהודים בגלות מפני הנוצרים?
Qu'est-ce qu'un enfant peut comprendre à toutes ces luttes de pouvoir au sein d'un village juif? Qu'est-ce qu'il peut comprendre à ce qui se passe dans la diaspora? Qu'est-ce qu'il peut comprendre à ça?
אבל זאת הייתה הילדות של אבא שלי, ולכן קראתי ולמדתי, ובזמן מאוד מאוד קצר בעצם יצרתי לעצמי מובלעת כזאת של העיירה היהודית בתוך החיים שלי בישראל של תחילת שנות ה-60, ישראל שבנתה את עצמה, הקימה את עצמה מהאפר אחרי השואה, והייתה חייבת מיד להיות חזקה.
J'ai lu et je me suis construit une sorte de bulle au sein d'Israël, et je me suis construit cette bulle qui représentait donc ce village juif d'Europe centrale au sein d'un Proche-Orient, d'un Israël qui devait être fort face à un ennemi.
ואני זוכר שאף ילד בשיקון שבוגרתי לא הכיר את שלום עליכם.
Je me souviens que dans mon quartier, aucun enfant n'avait entendu parler de Shalom Aleichem, aucun enfant n'avait lu les histoires de Shalom Aleichem.
ואני זוכר שפעם כשסיפרתי לחבר הכי טוב שלי שאני קורא את הסיפורים האלה על טוביה החולה ועל מנחם מנדל,
quand j'ai raconté à mon meilleur ami que je lisais ces livres sur Tuvia,
le litier,
et d'autres, il m'a regardé un petit peu avec dédain, mais dit, mais c'est pas très cool de parler de tout ça.
ואני מיד בחוש של ילד, כלומר חוש של שורד, הבנתי שיותר טוב לשתוק על הדברים האלה ולשמור אותם.
En tant qu'enfant, j'ai tout de suite eu ce sentiment de survivant qu'il valait mieux ne pas parler de ça, il valait mieux se taire.
ואני זוכר עוד דבר שהייתי בטוח אז שהעיירה היהודית הזאת קיימת במקביל
que le village juif continuait d'exister en parallèle avec notre existence en Israël.
Et
c'est seulement quand j'ai eu 9 ans, lors du jour du souvenir de la Shoah,
היינו צריכים לבוא לבית ספר עם מכנסי טרילין שחורים וחולצה
aller
לבנה.
À l'école avec des pantalons longs et
שמדברים על 6 מיליונים הקדושים,
parlait des 6 millions, les 6 millions de saints qui sont morts, etc.
אבל המספר הזה 6 מיליון הרי
הוא
לא אומר שום דבר לילד.
Ça ne dit rien à un enfant. C'est trop grand comme chiffre.
גם למבוגרים בעצם הוא לא ממש מוחשי.
Même aux adultes d'ailleurs, il n'y a rien de réel là-dedans. Il faut une Franck pour qu'on comprenne véritablement, pour qu'on ressente cette tragédie. Il faut toujours une histoire individuelle pour comprendre cette tragédie. Donc dans cette école de Beta Kerem, c'est le nom du quartier de Jérusalem, ça m'a traversé soudain l'esprit que ces 6 millions ont été assassinés lors de la Shoah. C'était Motel, le fils de Peissi, le chantre, c'était Menachem Mendel, c'était Tuvia le laitier, c'était les dizaines de héros littéraires qui faisait partie de mon secret. Et chaque enfant a son premier mort. Et moi, d'une certaine manière, les héros, les personnages de Shalom Aleichem, j'ai soudain compris qu'ils n'étaient plus là, que ce qui a été détruit, c'est cette réalité-là du village juif.
Et je קשה לי לומר את זה בוודאות, כי הייתי מאוד צעיר אז.
Il m'est difficile de le dire avec certitude parce que j'étais très jeune.
אז ידעתי שאני רוצה להיות סופר כמו שלום עליכם.
J'ai décidé ou compris que je voudrais être un écrivain comme Shalom Aleichem.
ושאני רוצה לכתוב על השואה.
Et que je veux écrire sur la Shoah. C'est deux choses vraiment qui me sont venues à un âge très très jeune, que je serai écrivain et que j'écrirai sur la Shoah. Je crois que c'est suffisamment long comme ça déjà.
Justement, vous êtes devenu écrivain, vous avez écrit sur la Shoah, vous avez écrit ce livre extraordinaire, Voir ci-dessus, Amour. Il y a Momik qui est une sorte de double, dont on peut penser qu'il est un double de vous, et dont les parents sont assez contents lorsque Momik cesse d'être obsédé par la Shoah. Notamment Bella était toute contente qu'il ne s'intéresse plus au pays de là-bas. Le pays est toujours désigné par le pays de là-bas. Est-ce que cette façon de dialoguer avec le mutisme de vos parents vous a aussi influencé quand vous avez écrit l'histoire de Momik ? Les livres comme Dialogue avec le silence ?
Kodem kol, בספר בעיין ערך אהבה מומיק
tout d'abord dans le livre voir
ci-dessus
Momik a une obsession de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays de là-bas.
בכלל זה מעניין לציין שבעברית
intéressant de dire que ici
בכל שפה שיהודים מדברים על השואה הם אומרים מה היה שם.
Où les juifs parlent, dans laquelle les juifs parlent de ce qui s'est passé pendant la Shoah, ils disent ce qui s'est passé là-bas.
כשלא יהודים מדברים על השואה הם אומרים מה קרה אז.
Et lorsque des non-juifs parlent de la Shoah, ils disent ce qui s'est passé à cette époque.
ויש משמעות להבדל הלשוני הזה.
Il y a un sens à cette différence linguistique.
כי מה שהיה אז,
parce que ce qui
s'est passé, זה היה ונגמר.
À ce moment-là, ça s'est passé.
מה שקרה שם, זה אומר שבאיזשהו
מקום, ça signifie que
במקביל למציאות של חיינו
היום, השם הזה אולי ממשיך להתקיים, אולי פתאום הוא יפרוץ
ויצא.
Peut-être qu'il va exploser et sortir.
ומומיק שלי, הילד, שהוא ילד בן 9,
הוא בן למשפחה של,
לא משפחה אפילו, כמעט אין משפחה שם, כמו רוב המשפחות שהגיעו שם.
הוא
שומע כל הזמן את ההורים שלו ואנשים אחרים מדברים על שם,
שם. והוא
מתחיל לדמיין לעצמו שהייתה מין ארץ כזאת שנקראת,
הוא קורא לה ארץ שם. כי ספל לפי לבא.
והארץ הזאת נשלטה על ידי כוח היום מרושע.
Dirigé par une force horrible, énorme, qui a fait du mal à ses parents, qui a fait du mal à tous les gens qui venaient de là-bas.
Et
Momik, en raison
de son effort,
cet effort véritablement difficile de comprendre le monde des adultes.
אנחנו עושים אידיאליזציה של הילדות.
On idéalise
toujours l'enfance. כמה נעים להיות ילד, כמה שמח. וזה גם נכון, בוודאי נכון.
C'est bon d'être enfant.
אבל ילדים תמיד גם
שרויים
במאמץ אינסופי
של
פענוח, של ניסיון להתקבל
toujours dans une tentative sans fin, très dure de recevoir, de se recevoir dans la réalité qui a été créée par les adultes.
ומומיק
Momik,
המסתורים והמצוקה שבה הוא נמצא עם גדולים
mystère
הרבה יותר,
et la difficulté dans laquelle il est est très importante parce que il y a un endroit sombre.
גם המבוגרים כשהם עומדים מול החידה של השואה הם בעצם קצת ילדים.
En fait,
גם הם
même
קצת חסרי
lorsque
אונים,
les adultes sont devant cette question
ילדים.
De la Shoah, n'ont pas de réponse, ils sont comme des enfants face à la Shoah finalement.
מחליט איכשהו
et Momik décide de sauver ses parents.
איזושהי מציאות שבה
de créer une réalité,
הם לא יהיו בעינוי התמידי הזה של הזיכרונות שלהם.
Ils ne seront pas dans cette torture perpétuelle de leur mémoire, de leur souvenir.
והוא שומע המבוגרים כל הזמן מדברים על החיה הנאצית. ככה התייחסו אל השלטון הנאצי בשנות ה-50 וה-60 בישראל.
Il entend toujours les adultes dire parler de la bête nazie.
Ainsi on parlait dans les années 50.
Et il voulait savoir quel type d'animal c'était cette bête nazie.
ואז et il nigash el Bella shi ba'alat ha'makolet
ha'shkunatit. Bella qui est l'épicière du coin,
il
lui casse les pieds et lui pose des questions sans arrêt. Bella, c'était quoi cette bête nazie?
Et Bella
ne veut pas lui dire car il n'a que 9 ans, c'est un enfant. Elle craint de lui dire la vérité, elle a peur.
C'est quelque chose
que je ressens tellement fort de moi-même. Après avoir écrit ce livre,
que mon fils aîné,
il avait 3 ans ou 4 ans, il est rentré de la maternelle, du jardin d'enfant, et il m'a dit, c'est quoi les nazis? C'est quoi la Shoah? Et moi, je me souviens, je ne voulais pas lui raconter, parce que j'ai cru qu'au moment où cet enfant pur, naïf, aurait découvert ce qu'il y avait dans le répertoire du mal adulte, il serait souillé par cela. Ça ne sera plus le même homme humain après que cet aspect du mal humain lui serait révélé. Bella ne veut pas raconter à Monique, mais à la fin, elle se soumet et lui dit, tu sais, la bête nazie peut sortir de n'importe quel individu s'il est élevé correctement, de la bonne manière, et s'il reçoit la bonne nourriture. Elle le dit, bien sûr, de façon un peu ironique. Mais Momik est un enfant de 9 ans, et il prend les choses très sérieusement, très au sérieux. Et il décide qu'il va rassembler des tas d'animaux qu'il va trouver dans son environnement. Il trouve un chaton et un oiseau, peut-être même ta grenouille.
Et
il les met dans des cartons, dans des boîtes.
Et
dans l'abri des parents, sous la maison de ses parents, des rescapés de la Shoah, tout en secret, il essaye de faire grandir la bête nazie
et
de lui donner la nourriture et les soins nécessaires. Donc pour que d'un de ces animaux sorte la bête nazie, pour qu'il puisse, à la fin des fins, lui parler et la convaincre qu'elle cesse d'être ce qu'elle est. Et bien entendu, pour le faire,
il
doit apprendre de plus en plus qui étaient les nazis, qui étaient les juifs, qu'est-ce qu'un juif. Je
ne
vais pas raconter toute l'histoire. On n'a pas suffisamment de temps ici, mais c'était sa façon, peut-être ma façon, d'essayer de me tenir face à cette question, à cette énigme.
Il y a une autre énigme, David Grossman, qui court dans votre œuvre, c'est le rapport au langage. Momik, lui, lit souvent en sachant que tout ce qu'il ne lirait, il ne comprendrait pas. Parce que pour comprendre des histoires, je le cite, des histoires comme ça, il faut des commentaires comme ceux, disons, de Rashi ou de quelqu'un qui comprend vraiment la langue. Parce qu'aujourd'hui, personne ne parle comme ça. Donc ça, c'est lorsqu'il est perdu dans tous ses livres. C'est un rapport à la langue qui a été aussi le vôtre. Quand vous lisiez Sholem Aleichem, vous expliquez dans Writing in the Dark, dans la peau de Gisela, que vous apparteniez à une génération habituée à lire sans comprendre chaque mot. Est-ce que ce rapport au langage comme lieu du mystère vous a aussi tenu lieu d'éthique quasiment d'écrivain?
C'est la matière première de l'écrivain, la langue. Je crois qu'on devient écrivain
parce qu'il
est claustrophobe dans les mots des autres. Il étouffe dans les clichés, dans les stéréotypes divers.
אני חושב שזה הצורך העצום הזה
לדייק
עד הניואנס
האחרון של כל רגש,
של כל משב רוח שעובר בנפש של הגיבור שלך.
État d'esprit qui passe dans l'âme de chaque héros.
Mais je vais simplement parler de ce que tu as dit au début.
Je suis d'une génération qui est née dans les années 50 en Israël.
Il n'y avait pas beaucoup
de traductions de littérature étrangère en hébreu à cette époque-là.
לא פעם היו הסופרים הגדולים שלנו, שלונסקי,
ביאליק
ואלתרמן, שתרגמו מרוסי.
C'était des géants de notre littérature qui traduisaient du russe, même parfois du français.
וגם הסופרים שכתבו שפת המקור בארץ,
בדרך כלל בשפה מאוד
גבוהה.
Écrivait dans une langue très tenue, parce qu'il y avait quelque chose, un esprit biblique dans l'hébreu de l'époque.
Et donc,
je lisais des extraits, des passages complets que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que je lisais.
Mais
il y avait quelque chose, un mystère exotique dans ces mots que je ne comprenais pas. Je le dis parce qu'aujourd'hui, dans la littérature écrite pour les adultes aujourd'hui, il y a une volonté
de descendre à
un niveau de langage extrêmement bas afin que chaque enfant comprenne chaque mot.
Mais
ça a un prix,
cette descente. C'est un prix de
trop de simplicité. Il y a une vulgarisation.
Et cette langue
n'a plus cet aspect mystérieux
que j'évoquais.
Être vraiment sur la pointe des pieds, comme si on allait découvrir un monde nouveau, ce n'est plus
ça.
Si je reviens à la lecture de Shalom Aleichem quand j'étais enfant, bien sûr, il y avait des questions d'une réalité que je ne connaissais pas, mais c'était la première langue étrangère que j'ai apprise. Parce que j'ai lu ça même avant d'apprendre l'anglais à l'école. Et lorsqu'on apprend une langue nouvelle, on apprend une autre dimension du monde. On apprend d'autres nuances de la réalité que la langue maternelle ne vous apporte pas. On s'enrichit d'une dimension supplémentaire de l'expérience.
Cette dimension supplémentaire en hébreu, elle est particulièrement forte. Je cite Aaron Appelfeld dans Soudain l'amour, « La prose biblique doit être un exemple pour celui qui écrit ». Est-ce que cette densité biblique vous a inspiré aussi, ce mystère de la langue et sa densité?
Je crois
qu'un écrivain qui écrit aujourd'hui en hébreu, il vaut mieux qu'il connaisse bien la langue de la Bible, que son hébreu moderne soit bien fondé sur les bases de la Bible, sur les bases de la phrase biblique. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire en hébreu.
C'est une
langue qui a une continuité de plus de 3000 ans.
Et
on peut avoir une discussion, une négociation entre les différentes époques, entre les différents niveaux de l'hébreu.
Je pense toujours,
si Abraham, notre père, venait dîner avec nous, il comprendrait au moins 50% de ce que dit ma fille, qui a 15 ans. C'est merveilleux. Dans le livre de Job, on utilise
ותתחן לאחר אשתי, כלומר אחר, סליחה על הביטוי, יתחן את אשתי, שזה דבר שתמצא אותו היום.
C'est une phrase sur ce qui va se passer avec une femme
et
qui se dit aussi dans l'argot de l'hébreu d'aujourd'hui. On peut le dire aussi de la même manière en argot d'aujourd'hui. Les gens qui utilisent l'argot ne le savent probablement pas. Ils vont peut-être une fois par an à la synagogue. Mais cette construction de la langue est dans leur esprit. Et cette construction de l'hébreu biblique se retrouve dans la littérature d'aujourd'hui.
Il y a aussi, en étant dans la littérature, dans l'hébreu d'aujourd'hui, en allant chercher une langue dépourvue du cliché, la langue la plus exacte, une sorte de fascination qui vous ramène à quelqu'un qui est extrêmement important pour la littérature et pour votre littérature, Bruno Schulz. Je vous cite dans « Voir ci-dessus amour », « N'oublions pas que les mots que nous employons ne sont jamais que les éclats des éternels récits des premiers âges ». Est-ce qu'il y a, avec Bruno et avec vous, on l'appelle Bruno comme dans le récit, une quête de ce premier âge ?
Je pense que vous connaissez tous Bruno Schulz, écrivain de renommée mondiale. Je vais vous dire comment je l'ai rencontré, moi, comment je l'ai connu. Après la publication de premier roman en hébreu, c'est-à-dire Le sourire de l'agneau.
Vous
savez, quand il y a un nouvel écrivain, c'est comme lorsqu'il y a un nouveau bébé dans la famille. Il vient d'un endroit qu'on ne connaît pas très bien et tout le monde tente de le relier à telle ou telle famille, à tel ou tel style.
C'est comme il y a
un nouveau bébé, tout le monde se penche au-dessus de son berceau. Ah, il a le nez de tonton machin, il a le front de tata truc. Voilà.
Et un jour, Daniel Schillit
m'appelle au téléphone, un nouvel immigrant venu de Pologne, et il me dit, mais tu es très influencé par Bruno Schulz. Je suis désolé, mais jusqu'à ce moment-là, je ne connaissais pas ce nom. J'étais un jeune écrivain, oui, probablement, j'ai été influencé par lui. Et je dirais entre parenthèses que chaque fois qu'un des grands critiques ou un de mes lecteurs me dit « Ah, t'as influencé par X, t'as pris de là, t'as volé ici », même si je ne connais pas ces gens-là, après les avoir lus, j'ai vu qu'en fait, oui, j'ai été influencé, j'ai pris, j'ai volé, oui, oui. Et ce même soir, nous étions chez un ami, je leur racontais l'histoire, et ils m'ont dit, ah, on a un bouquin de Bruno Schulz. Et j'ai commencé à lire ce livre, et c'est une expérience que je n'ai pas eue depuis des années. Vous savez, je me suis senti comme quelqu'un qui est amoureux. Il est certain que ce livre a été écrit que pour lui. C'est une lettre personnelle que Bruno Schulz a écrite pour moi. Et je l'ai lu de A jusqu'à Z et j'ai été émerveillé. Et chez Bruno Schulz, tout passage, c'est comme une explosion d'imagination, de fantaisie, de cauchemar, de questionnement. Et il y a tellement de niveaux de réalité dans un paragraphe de Bruno Schulz, c'est extraordinaire. Quand on rencontre un écrivain qui met en marche tous les instruments de l'imagination et du sentiment. Et je ne connaissais rien de Bruno Schulz. Je suis arrivé à la fin du livre et là, il y avait un épilogue que Brunowski, qui était un traducteur extraordinaire de Bruno Schulz. Et j'ai lu l'histoire sur la mort de Bruno Schulz. Peut-être c'est une anecdote, ce n'est qu'une anecdote peut-être. Mais Ernesto Sabato dit que les anecdotes, dans leur réalité, sont bonnes pour la vérité parce qu'elles sont créées jusqu'au moment où elles correspondent exactement à un héros ou un personnage particulier. Et cette histoire correspond parfaitement à la réalité interne de Bruno Schulz. Bruno Schulz, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les nazis sont entrés et ont conquis Drobitsch, est devenu une sorte de domestique juif d'un officier nazi. Et cet officier avait une dispute pour des histoires d'argent avec un autre officier nazi. Et cet officier nazi a vu Bruno Schulz à un coin de rue à Drobitsch. C'était le soir, Bruno Schulz avait du pain sous le bras, on lui a demandé de l'acheter. L'Allemand l'a tué. Est allé voir l'employeur de Bruno Schulz et lui a dit « J'ai tué ton juif ». Très bien, a dit l'autre officier. Maintenant, je vais tuer ton juif. J'ai lu ça Je ne savais plus quoi dire, je ne savais plus où j'en étais. Je suis sorti de la maison, j'ai marché dans les prés près de Ramat Rachel où se trouvait la maison, je marchais dans la brume. J'ai senti que je ne voulais plus vivre dans un monde où il y avait des hommes comme cela. Je ne voulais plus parler dans une langue humaine qui permet des constructions aussi monstrueuses. Tu as tué mon juif, je vais tuer ton juif. Que un homme, c'est une pièce détachée de voiture. Que tu m'as pris ce verre-là, je te prends ce verre-là. De cette contradiction extraordinaire entre la façon dont Bruno Schulz a vécu et a vu le monde, sa richesse infinie, et cette phrase stérile, nazie, j'ai tué ça, je vais tuer ça. Et je me souviens que je me suis dit, je veux écrire un livre où il y aurait une seconde de vie et d'existence d'un homme. Je l'ai raconté à ma femme et je lui ai dit, je veux écrire un livre sur la Shoah pour qu'il tremble sur l'étagère. Et dans ce livre, j'ai parlé de Bruno Schulz. Et le passage de Bruno Schulz est au quart du livre. J'essaye de le sauver de la mort, de cette mort il est écrit aussi dans le style un peu de Bruno Schulz. Quand on décortique le code linguistique de Bruno Schulz, on voit où il réussit à vous amener vraiment dans les bases des mots qu'il utilisait. Il pensait, il croyait que la langue était une sorte de serpent mythologique qui, à l'aube des temps, a été découpé en milliers de petits morceaux qui sont des mots. Et ces mots se sont dispersés dans le monde et ont perdu leur sens premier. Et je crois que l'expérience d'écrire comme Bruno Schulz, c'était une expérience que parfois on met deux mots ensemble de temps en temps et soudain on comprend que c'était deux mots qui étaient ensemble dans le serpent primitif, comme Bruno Schulz le dit.
Je vous cite, c'est quelque chose qui tente de retrouver la mosaïque originelle, la vérité, un fin réseau de maillons fragiles de par le monde. Protégez votre artiste pour votre bien et pour le nôtre. Aimez votre artiste, mais surveillez le bien. Entourez-le des trois cercles d'amour, joignez vos mains autour de lui, ne cessez jamais de l'aimer car tel est le pacte tacite, votre amour en échange de sa vigilance, sa fidélité en échange de votre sérénité. Est-ce qu'on écrit aussi, David Grossman, pour retrouver une de ses phrases originales comme une sorte de tikkun?
Chaque écriture, si elle est juste,
si elle est véritablement
dirigée vers ce que l'on veut écrire, il y a un tikkun. La réalité dans laquelle je vis, qui est une réalité de conflit centenaire, une réalité où l'instinct premier de celui qui y vit est de réduire sa surface de contact avec la réalité parce que c'est trop douloureux. Une réalité qui se décrit par des médias agressifs, qui veut simplement couper entre nous et ce qui se passe en réalité. Comme dans chaque conflit qui perdure, il y a la création d'une langue dont le rôle premier n'est pas de révéler aux citoyens les horreurs, les péchés, les erreurs, mais au contraire, de les protéger de cela, de mettre en place une histoire officielle qui permettrait aux gens de vivre sans qu'ils souffrent trop. Et dans une telle réalité,
Les gens qui sont sensibles à la langue. Les gens qui vivent de par la langue. Les gens qui sentent
que les grandes
institutions, le gouvernement, l'armée, la presse, polluent leur langue,
la
manipulent. Une des voies, les premières voies de se protéger, de respirer leur propre air, c'est de respirer. C'est d'écrire. D'écrire de façon exacte. De se souvenir que même si on veut nous transformer en meute, malgré la peur, malgré la contraction qui nous transforme un petit peu en meute,
même
ce qui nous aide un petit peu à survivre, c'est de penser en stéréotype, de nous penser en stéréotype, de penser l'ennemi en stéréotype. Ça nous aide à survivre. Mais pour moi, écrire dans une telle atmosphère, c'est retrouver mon droit à l'individualité. Mon droit d'être un individu à tous les niveaux, ne pas me joindre à la meute ou au groupe, même si c'est très agréable de se joindre au groupe. Et ça me donne une impression de pouvoir me protéger.
אחד הדברים שעוזרים לי,
une des choses qui m'aide,
לא רק לשרוד, אלא
non
גם
pas
ממש
seulement à survivre, mais à vivre tout simplement, l'atmosphère extrêmement difficile dans laquelle nous sommes,
זאת האפשרות,
c'est la possibilité
לתאר את המציאות
de raconter la réalité par mes mots,
שלי
de donner des noms
à
la réalité au sein de laquelle je vis.
Des
noms propres à la réalité dans laquelle je vis, comme je l'ai fait dans Le Vent Jaune, dans Le Sourire de l'Agneau, qui était mon premier, le premier roman en hébreu sur l'occupation. Mais même dans le livre que j'ai écrit sur la Shoah, parce que la Shoah, ou la façon dont on en parle, d'une certaine manière, ça devient une façon stéréotypique de s'y référer. Le mot Shoah est devenu un stéréotype. Et il faut à chaque fois revenir et raconter qu'il y a eu des histoires individuelles dans la Shoah et les raconter. Plus nous nous éloignons de la Deuxième Guerre mondiale, le débat devient de plus en plus philosophique et simplifié sur le bien, le mal. Question, est-ce que les Allemands ont souffert autant que les Juifs? Qui sont scandaleuses en elles-mêmes. Mais il faut à chaque fois rappeler les êtres humains, l'homme, la femme, l'enfant qui était dans ses caves et se cachait. Et lorsqu'on écrit, soudain, il semble que l'on découvre deux choses que je ne savais pas. Même si je suis devant l'arbitraire, le pire de la vie, qui peut détruire une vie,
si
on décrit cette vie avec ses propres mots, les mots qu'on lui donne, d'une certaine manière, on cesse d'être la victime de l'arbitraire. On n'est plus victime. Si tu l'as appelé par son nom propre que tu lui as donné, tu n'es plus la victime. Soudain, tu reconnais que dans cet arbitraire qui t'a rendu muet, il y a des nuances, il y a un espace où tu peux bouger. Tu n'es plus muet devant cet arbitraire. Mais pour moi, ne pas être victime, je crois que c'est une des choses les plus importantes. Je crois qu'un des dangers les plus grands dans notre situation en Israël, c'est le sentiment que nous sommes victimes. C'est devenu un concours. Qui est la plus grande victime? Nous, les Palestiniens? C'est un Jeux olympiques de douleur entre nous et les Palestiniens chaque fois qu'on se rencontre. Et chacun est persuadé que c'est la victime ultime. Si tu es victime, tu ne feras rien pour te sauver. Si tu es victime, tu veux que quelqu'un d'autre te sauve. Si tu es victime, tu crois que tout ce que tu fais, tu as parfaitement raison de le faire, puisque tu es victime. C'est ton droit. Mais à mes yeux, je crois que c'est une des choses les plus horribles, les plus terribles. Je crois que Israël a été créé pour que nous ne soyons plus jamais des victimes. C'est le fondement, c'est le principal.
Et
c'est la chose la plus importante et la plus juste pour que nous ne soyons plus jamais des victimes. Maintenant, nous sommes une puissance militaire avec 200 ogives nucléaires, avec une des meilleures armées du monde. Et nous nous sentons encore victimes, victimes de l'histoire, de notre histoire, victimes de notre ennemi, de nos peurs. Donc, si je descends à mon niveau individuel, lorsque j'écris, je ne suis pas une victime, même si je décris les choses les plus horribles. Savez-vous, peut-être c'est le droit unique qu'il y a dans cette situation d'un homme qui se trouve dans une situation très dure, parfois tragique. Le droit d'exprimer sa tragédie dans ses propres mots. Et pas dans les mots de quelqu'un d'autre, les mots qu'on lui a mis dans la bouche.
On a compris que c'est aussi un plaidoyer pour la complexité, pour le refus de ces diagnostics et ces dogmes qui sont imposés. Dans Les Exilés de la Terre Promise, vous écrivez, où vous êtes auprès des Palestiniens, un reportage littéraire. Je me dénude face à cette complexité, je tente de lui faire de la place, de lui faire de la place parmi nous. On passe du « je » au « nous », de l'écrivain, de son intimité, au pluriel. Est-ce que c'est aussi une lutte pour l'intimité? Parce que c'est justement à partir de l'intime qu'on arrive à dire les choses les plus vastes, le pluriel le plus englobant. David Grossman.
En général, le pluriel, c'est le contraire, l'opposé de l'intimité. Une des choses dont je souffre le plus dans la vie, c'est lorsqu'il y a une atteinte étrangère qui n'est pas suffisamment attentive, pas suffisamment fine à mon intimité, à mon entourage. Je crois que l'écriture pour moi est une façon de créer les choses les plus intimes et de les amener vers les étrangers et d'espérer que eux accepteront de s'ouvrir à cette intimité que je leur propose. Une des choses les plus anxiogènes dans l'écriture, c'est ce sentiment, disons, je vais le reformuler, une des choses les plus fortes, les plus difficiles dans la vie quotidienne, tant de choses de ma vie quotidienne, tant de choses sont imposées par des gens qui ne sont pas importants, pas pertinents. Ce lien entre moi et eux, je ne voudrais même pas les rencontrer. Non seulement je ne voudrais pas les rencontrer, je ne voudrais pas échanger d'idées avec eux. Je ne voudrais même pas prendre un verre de café avec eux. Et quand j'écris, chaque chose est pertinente. Chaque chose existe dans l'espace intérieur de l'écriture. Et il arrive souvent que je commence à écrire sur une situation ou sur un personnage que je ne comprends pas. Pourquoi ce personnage me colle? Pourquoi ça m'est tellement important d'écrire ça? Pourquoi je ne peux pas dormir la nuit jusqu'à ce que je n'ai pas fini? Est-ce que je n'ai pas compris ce que me dit ce personnage? Et lentement, peu à peu, dans ce processus intime, c'est merveilleux, vous savez, c'est comme si mon âme passe par des cataractes et puis on descend encore, on descend jusqu'au moment où on enlève une couche, on enlève encore une couche jusqu'à ce qu'on soit complètement nu face à la situation. et on permet, et on se permet d'être ce personnage. Et on comprend pourquoi ce personnage est fait de vous-même, que sa chair est votre chair. Et à mes yeux, c'est un des plaisirs les plus immenses de l'écriture. En général, on est tellement protégé des autres personnes. On a une sorte d'instinct. Allez, on va se protéger complètement du chaos qui est chez les autres personnes. C'est une sorte d'instinct de survie, probablement. Il y a, en attendant Godot, il y a cette scène, la petite scène entre Vladimir et Estragon. L'un dit, j'ai rêvé un rêve.
Ne
me raconte pas, dit l'autre. Il lui dit tout de suite, alors à qui je vais raconter mes cauchemars si ce n'est pas à toi? Non, 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 garde-les pour toi, il faut que ça reste avec toi, je ne veux pas les entendre. Et donc, quand on écrit, le premier mouvement est exactement inverse. Le premier mouvement est de savoir, de connaître l'autre de l'intérieur, son corps et son âme. Essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être autre, un autre. C'est des choses qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire autrement. Moi, je ne peux pas le faire autrement. Comprendre ce qu'est cette flamme qui traverse l'autre et qui est en fait un autre. C'est une très grande intimité, c'est ça.
Cette intimité qui fait advenir l'autre et qui fait advenir à soi, c'est aussi l'intimité amoureuse. Je vous propose d'entendre quelques pages de Tu seras mon couteau, qui est paru en France en l'an 2000.
Donc c'est la fin d'un premier texte, déjà. N'est-ce pas qu'il n'y a plus rien à dire, que l'essentiel a été dit? Écoute, j'ai lu un jour cette idée d'un de nos anciens rabbins, sur un petit os dans le corps, tout en haut, à l'extrémité de la colonne vertébrale, un os appelé lous, qui est indestructible, qui ne s'effrite pas après la mort, ne se consume pas dans le feu, et à partir duquel l'homme sera recréé le jour de la résurrection des morts. Alors je me suis livré à un petit jeu. J'ai essayé de deviner quel était le lous des gens que je connaissais, la chose ultime qui leur survivrait, qui serait indestructible et à partir de laquelle ils seraient recréés. Bien sûr, j'ai cherché aussi mon lous, mais rien ne correspondait aux exigences requises. J'ai fini par cesser de chercher et de me poser des questions. Mon lous a été déclaré absent jusqu'au jour où je t'ai aperçu dans la cour de l'école. Et soudain, cette pensée a ressuscité d'entre les morts, accompagnée de l'idée douce et folle que peut-être mon lous ne se trouvait pas du tout en moi, mais chez un autre. 7 avril. Tout de même moi, une minute avant minuit, c'est la troisième aujourd'hui, ne crains rien, tu ne sais pas combien de lettres je ne t'ai pas envoyées aujourd'hui, mais c'est notre premier jour ensemble, celui où ta lettre est arrivée et où j'ai répondu. Et tant que je n'ai pas reçu d'une autre lettre de toi, je peux croire que tu me lis exactement comme je t'écris, dans un demi-sommeil, une rêverie. Aujourd'hui au travail, je dansais en marchant, et c'est ainsi que je murmure et je t'appelle. Maïm, Maïm, d'une voix fine, de plus en plus fine à mesure que je pense à toi. Maïm, laisse ruisseler l'eau sur moi. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause du Maïm de ton nom, sans la dureté du R qui l'empêche d'être fluide, ou parce qu'il n'y a pas de fécondation sans liquide. Je le sens dans mon corps que nous avons tous les deux besoin d'eau, de beaucoup d'eau autour de nous, de fleuves et de cascades, simplement pour commencer à être. J'exagère, je me laisse entraîner, je t'ai senti te refermer. C'est vrai, ton corps faisait la tête, ou peut-être ai-je dit une parole blessante. Il faut que tu me guides, que tu m'expliques où tu as mal, où il faut faire attention. Ou bien es-tu submergé par moi aujourd'hui, fatigué? Parce que moi, ça m'affaiblit de t'écrire, je te l'ai dit. Je n'ai jamais ressenti une telle fatigue due à l'écriture. 5 à 10 lignes et j'ai le vertige, c'est presque agréable. Ça rappelle cette sensation de l'enfance, quand on sort pour la première fois après une longue maladie. Dis, Si nous décidions d'avance que cet échange épistolaire ne durera pas trop longtemps, disons un an, ou bien jusqu'à ce que ça soit insupportable à force de plaisir, parce que si mon corps dit maintenant la vérité, et le corps ne ment pas, non, il ne ment pas. Combien de fois ai-je menti avec mon corps ? Combien ai-je de fois embrassé, étreint, fermé les yeux de plaisir, fini en fanfare, mais sans aucune intention particulière ? Et toi, combien de fois ? Myriam, si je ressens pour toi en ce moment, si ce que je ressens pour toi en ce moment est vrai, alors peut-être que même une année sera trop long. Nous ne tiendrons pas aussi longtemps. Nous sèmerons la ruine autour de nous. Il me semble que nous avons tous les deux des choses à perdre à l'extérieur. Alors j'ai pensé, c'est idiot, mais tout de même que nous pourrions peut-être décider d'avance. Fixons une date, ou bien attendons qu'il se passe quelque chose dans le monde, une chose qui nous soit complètement étrangère et indifférente, mais qui soit en même temps notre signe de connivence sur le calendrier. Qu'en penses-tu ? Est-ce que cela t'apaise un peu ? Nous donne tout de même un certain cadre ? Comme ça, nous saurons d'avance que la séparation ne dépend pas du tout de nous, et que d'ici là, il nous faut arriver à tout. Être tout ou rien. Qu'en penses-tu ? Tu t'éloignes de nouveau brusquement, tu te refroidis et tu recules. Bon, d'accord. Je sais que j'ai écrit une grosse bêtise, que j'ai vidé le seau avant qu'il soit plein, mais attends de voir. Ne décide rien contre moi. Écoute, le plus simple, pour ne pas te perdre aussitôt, serait que je t'arrache cette feuille et que je la réécrive sans ces quelques lignes pitoyables. Tu vois, je l'ai conservée telle qu'elle, sans rien effacer. Car dès l'instant que tu m'as répondu, j'ai décidé que tout ce qui m'arrivait à cause de toi t'appartiendrait. Inscrit en moi, inscrit en toi, toute pensée, volonté, angoisse ou passion, tout bébé, fœtus ou avorton formé en moi à cause de toi. C'est le cœur même de mon contrat avec toi et uniquement avec toi. Je renonce par la présente à tout maquillage séducteur, à toute censure intérieure et surtout au droit d'autodéfense. Quel soulagement d'écrire ces mots. Mais je viens de relire ce que j'ai écrit. Si seulement j'avais pu t'écrire autrement, si j'avais été un homme qui écrit autrement, tant de mots et paix, cela aurait pu être simple, n'est-ce pas ? C'est comme « Dis-moi petit, où as-tu mal ?» Je ferme les yeux de toutes mes forces et j'écris. Si seulement deux êtres totalement étrangers pouvaient vaincre l'étrangeté même, le principe souverain et prescriptif de l'étrangeté, tout s'atéréopage, hautain et repu qui siège dans les tréfonds de notre âme, afin que nous soyons comme deux êtres qui se seraient administrés un sérum de vérité et seraient enfin obligés de la dire, la vérité. Je voudrais pouvoir me dire, avec elle, j'ai ruisselé de vérité, oui, voilà ce que je veux, que tu sois le couteau pour moi et moi pour toi, je te le promets, un couteau tranchant, mais avec pitié, ton mot. J'avais oublié qu'il était autorisé une sonorité si tendre et délicate. Un mot sans peau. Si on le répète plusieurs fois à voix haute, c'est comme de la terre salée et durcie au moment où l'eau commence à s'infiltrer dans les craquelures. Tu es fatigué. Je me force à te dire bonne nuit. Yahir.
On l'a entendu, l'étrangeté permet de quitter sa vérité, de la trouver peut-être, mais elle crée aussi un chaos intérieur immense. Vous aimez, parmi ces chaos de l'autre, écrire la jalousie, David Grossman. Est-ce que c'est aussi un sentiment qu'aiment explorer les écrivains, tant c'est une façon d'être aux aguets et de faire advenir l'imaginaire ?
J'ai écrit une nouvelle brève
d'un homme
jaloux de sa femme. La jalousie,
des
écrivains bien plus importants que moi s'y sont intéressés, l'ont aimé, l'ont décrit. Et quand j'écris ce livre, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Qu'y a-t-il dans ce sentiment qui est un sentiment horrible, affreux, méprisable, mais c'est tellement difficile de s'en libérer. Et j'ai pensé comme ça que lorsque nous sommes jaloux, même l'homme le plus sec, le plus rationnel, soudain devient créatif. Il devient auteur dramatique. Et sur la scène de son esprit, il y a des histoires d'amour. Et les deux dont on est jaloux toujours, chez eux, l'amour est plus brûlant. Et les relations sexuelles sont plus fortes, folles, plus douces. Et lorsqu'on est jaloux, ça provoque chez le jaloux un feu créateur dont il est très difficile de se séparer. Si on prend d'un de mes héros sa jalousie, ou est-ce qu'on reste avec un petit oignon desséché?
Et
j'ai toujours pensé que lorsqu'on est jaloux, en fait, on se crée un paradis dont nous serions chassés. En fait, c'est ça la réalité, le rationalisme caché de la jalousie, crée un paradis dont on est chassé. Pourquoi un homme normal se créerait-il un paradis dont il serait chassé? C'est une question qu'on peut poser non seulement à des individus, mais à des peuples entiers. Peut-être qu'on recrée ainsi des images du passé individuel ou du passé national. Mais ça, vraiment, c'est une question trop importante pour le temps qui nous reste.
Il nous reste quelques instants encore avec vous, David Grossman. On a entendu dans le texte cette importance donnée à l'autre qui est peut-être, grâce au loose, cette os... difficile à cerner le principe d'une résurrection. Quand j'ai lu ces pages, j'ai pensé à un autre poète de Bukovine. C'est quasiment à côté de la Galicie, pas très loin de là où habitait Bruno Schulz, Paul Celan. Louz en arabe, vous le savez, ça veut dire amande. Et dans un en arabe. Et dans un de ses poèmes, Paul Celan écrit « Compte-moi parmi les amandes, compte-moi parmi ce qui était amer et t'a tenu en éveil, compte-moi au nombre de tout cela. » L'autre, c'est aussi une façon amère d'être en éveil.
Quelle question! Je suis qu'un écrivain.
Can I embarrass you with something?
Je peux vous mettre dans l'embarras aussi à mon tour.
Okay, well, you know, I'll switch now to English because
j'ai passé à l'anglais.
When I okay. You at medabert gam ivrit be'etzem.
Mais en fait, tu parles hébreu aussi, n'est-ce pas? Tu veux que j'essaie en hébreu? Quand j'ai écrit
Tu seras mon couteau.
Merci.
J'ai demandé
à beaucoup de personnes quelle était leur
loose.
Quelle est la toute dernière chose qui restera d'eux lorsqu'ils ne seront plus là? L'essence de leur être. Que serait-elle? Et j'ai eu des réponses merveilleuses. Une femme m'a dit, mon loose, c'est la nostalgie. Et je l'ai donné à Myriam dans mon livre.
Et
une autre femme, qui a aujourd'hui 93 ans, m'a dit que son loose, c'est l'amour de sa vie. Son mari, qui avait été assassiné en Yougoslavie 60 ans avant. Pour certaines personnes, le loose, c'est la parenté, le fait d'être parent. Et moi, je te demande, quel est ton loose, Clémence?
Ce sera peut-être la soirée de ce soir. Voilà, donc voilà, c'est réussi, je suis embarrassée. je voudrais juste terminer en vous citant dans j'écoute avec mon corps, Anime Vinabagov. Confier ses secrets à un écrivain, c'est comme embrasser un pickpocket. Donc on a entendu que vous aviez utilisé les secrets de beaucoup d'individus pour écrire ce magnifique livre. Je voulais juste qu'on remercie le pickpocket de ce soir. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir l'applaudir encore beaucoup. Il revient, et nous aussi, dans quelques instants avec Amos Oz. Merci.